Bonjour David, bonjour à tous. Le président du Sénat, Gérard Larcher, en Deux-Sèvres hier. Ce dernier est notamment intervenu lors du congrès des collectivités à Saint-Mexant-l'École. À compter de ce vendredi, en raison des fortes chaleurs, les éboueurs de l'agglomération de Niort sont autorisés à travailler en short, du moins jusqu'à lundi prochain. Face au réchauffement climatique, certaines cours d'école sont transformées. C'est le cas par exemple à la maternelle Jean Moulin de Cerisé. Les travaux de rénovation et d'agrandissement du site du festival de Poupée ont été inaugurés mercredi dernier. La salle de la mairie à Cholet, baptisée Michel Léger, du nom du fondateur de CB il y a 50 ans, célébrée ses 50 ans mercredi dernier. Quant à la météo, eh bien elle sera tout simplement caniculaire cet après-midi. Dramatique accident de la circulation hier en Nord-de-Sèvres. En fin de journée, à Moléon, au lieu dit Largeas, une collision a impliqué un cycliste et un utilitaire. D'importants moyens de secours ont été déployés, mais ils n'ont pas pu ramener le cycliste à la vie. Cycliste âgé de 64 ans, décédé sur place. Le conducteur de l'utilitaire, âgé de 55 ans, est lui indemne. Durant l'intervention, la circulation sur cette départementale 759 a été interrompue pendant près d'une heure. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du choc particulièrement violent. Les fortes chaleurs à l'origine, une nouvelle fois d'intervention des pompiers pour des feux de champ hier à Pomproux, à Coulon ou encore à Saint-Maxir. Saint-Maxir où là un engin agricole, en l'occurrence une presse à bottes de paille, est aussi parti en fumée. Vous êtes les acteurs du quotidien, un des socles de notre République. Message de Gérard Larcher, le président du Sénat, au maire des Deux-Sèvres, réunis hier dans les murs de l'abbaye de Saint-Mexant-l'École à l'occasion du congrès des collectivités. Dans son discours, l'ancien maire de Rambouillet a d'entrée de jeu expliqué que les collectivités vont être mises à contribution dans le cadre des 40 milliards d'économies que la France doit faire. Il a aussi indiqué qu'il faudra trouver des solutions, la solution du moins la moins pénalisante. Il veut également redonner un second souffle à la décentralisation. Gérard Larcher.
Depuis 15 ans, nous avons recentralisé. Progressivement, on a retiré aux maires, aux présidents de conseils départementaux et aux présidents de région, mais surtout aux maires et aux présidents de conseils départementaux, leur autonomie, leur levier fiscal et financier. Et au travers du levier fiscal et financier, ça a commencé avec la taxe professionnelle. Et oui, ça s'est poursuivi par un certain nombre d'autres décisions. Et l'aboutissement, ça a été la suppression de la taxe d'habitation. En fait, en perdant leurs leviers financiers et fiscaux, les maires ont perdu une partie de leur pouvoir. Deuxième des choses, on a complexifié considérablement. On a rendu les maires dépendants, j'allais dire, des services de l'État ou de bureaux d'études dans lesquels ils n'avaient plus la capacité à faire entendre leur voix. La troisième des choses a quand même été la manière dont on a conduit l'évolution vers l'intercommunalité, qui est une chose indispensable, nécessaire. J'ai été président d'une interco, mais parfois les maires ont eu le sentiment qu'on leur forçait le bras. Et il y a donc eu cette recentralisation qui d'ailleurs a commencé, faut le dire, hein, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui va jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a besoin de refaire confiance au territoire.
Dans son intervention, le président du Sénat a aussi voulu rassurer les maires, et cela à moins d'un an des élections municipales. Une nouvelle étude publiée ce jeudi montre en effet que les maires n'ont jamais autant démissionné qu'au cours du mandat actuel. Gérard Larcher revient sur ce phénomène, toujours au micro de D4B.
Nous avons deux études du CEVIPOF qui démontrent, notamment dans les petites communes, j'aime pas le terme petite commune, mais commune de moins de 500 habitants, que beaucoup de maires sont là. Ils sont là parce qu'il y a les normes, parce qu'il n'y a plus, j'allais dire, de capacité de leviers financiers et fiscaux. Ils sont là aussi parce que parfois les citoyens sont très très exigeants. Et pour certains, ils sont là parce qu'ils ont le sentiment, dans les intercommunalités, pour les plus petites communes, de ne plus peser beaucoup. Et puis, il faut quand même analyser que ces maires, ils ont été élus dans des conditions absolument incroyables. On était en plein Covid. On a eu des tours d'élections municipales qui se sont déroulées à des semaines d'intervalle. Ce sont parfois les anciens maires qui ont assuré avec beaucoup de courage la période de la pandémie. Et donc les équipes municipales sont parties dans des conditions très très difficiles, ce qui peut expliquer un certain nombre de crises dans des conseils municipaux. Allez, il ne faut pas qu'ils détèlent, à moins qu'ils aient des raisons personnelles que je respecte, il faut qu'il continue.
Un texte sur le statut de l'élu devrait aboutir dans le courant du mois de juillet. Et puis après Saint-Mexant-l'École, Gérard Larcher s'est rendu dans l'après-midi à Secondigny pour l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire ouverte depuis un an. Le port du short toléré pour les éboueurs de la communauté d'agglo de Niort. Depuis leur nouvelle dotation en vêtements, les reapers ne pouvaient plus porter de short pendant leur journée de travail, même en été. Une décision qui a fortement agacé les principaux intéressés, à tel point qu'un préavis de grève avait été déposé début juin. Mais les agents ont décidé de ne pas pénaliser les habitants pendant ces fortes chaleurs. Hier, une réponse positive leur a été apportée par le directeur de secteur en raison des températures caniculaires attendues cette fin de semaine. Les éboueurs auront donc le droit de porter le short jusqu'à lundi prochain, date à laquelle est prévue une réunion qui réunira autour de la table notamment les syndicats et les élus. Michael Billy est délégué CGT.
Lors de la dernière dotation, on leur a dit que ça allait poser problème l'été, que le port du short était indispensable pour nous au niveau de notre confort de travail avec les fortes chaleurs et des choses comme ça. Donc ça fait 3 ans qu'on bataille plus ou moins pour le port du short. Nous, on estime que avec la mise en place des bacs, maintenant on collecte qu'en bac, les poches qui sont à côté des bacs, logiquement on n'a pas à les prendre. Les bennes ont évolué, les trémies sont très hautes. Entre faire un malaise derrière la benne, si vous prenez un coup de chaud et puis que la benne est en train de rouler, vous tombez. Pour moi, il n'y a pas photo, hein. Je préfère m'égratigner un petit peu. En plus, l'année dernière, il y a eu 2 déclenchements canicules par la préfecture. Et là, notre directeur général nous a autorisé à travailler en short.
À l'arrière des camions, les températures peuvent parfois grimper jusqu'à 50 degrés, une chaleur intenable pour les éboueurs.
Un camion, ça souffle de l'air chaud dessous, il y a le bitume, on est au soleil, dans des rues dans Niort qui sont petites, Niort, il y a la réverbération des murs et tout ça, c'est des vrais fours, quoi. Donc, pour moi, oui, il y a un manque total de prise en compte de tout ça, quoi. Je pense que un peu de bienveillance envers les agents, ça fait pas de mal, quoi.
Michael Billy, délégué CGT des reapers de la communauté d'agglo de Niort, rejoint par Hugo Schwender. Véritable institution toircaise depuis 50 ans, l'hôtellerie Saint-Jean fermera définitivement ses portes le vendredi 27 juin prochain après le service de midi. Fermeture qui s'accompagnera de 7 licenciements. Ce bel ensemble immobilier en surplomb du château de Thouars sera transformé en cabinet notarial. L'hôtel-restaurant Le Saint-Jean, qui accueillait de 150 à 200 couverts par jour pour des repas d'affaires mais aussi familiaux, était tenu en famille par Xavier et Laurence Bichon et Éric et Isabelle Bernier. Xavier Bichon va démarrer un nouveau projet avec John Sebir, formé par le chef Guy Savoie. Leur restaurant ouvrira en cœur de ville, au 6 rue Ricard, sous le nom d'Aubistrotoir. Au moment où une partie de la place Lavaux sera rendue au public, rénovée et végétalisée, nous y reviendrons plus longuement en début de semaine prochaine. Une journée technique sur la qualité de l'eau avant-hier a cerisé. Aucun cours d'eau du bassin de la Sèvre Nantaise n'affiche une qualité satisfaisante. Osons dire que le travail est immense. La ville de Cerisé s'active pour améliorer la situation et travaille notamment depuis quelques années sur la végétalisation d'espaces. Place de la République, au cimetière, mais aussi dans la cour de l'école Jean Moulin que les participants ont visité en début d'après-midi. Écoutez à ce sujet Hervé Bréjon, vice-président de l'établissement public de la Sèvre Nantaise, en charge de la qualité de l'eau, et Jackie Aubineau, adjoint au maire de Cerisé, en charge de l'environnement.
La renaturation des cours d'école en fait partie. C'est une des solutions. On peut avoir plein de solutions. On peut avoir aussi dans des communes créer des aménagements, mais la cour d'école est une des priorités.
Dans une cour d'école, à partir du moment où vous allez casser le bitume, vous allez façonner le sol de façon à ce que les eaux pluviales vont aller directement abreuver les arbres. On va faire comprendre aux enfants que toute cette eau, il ne faut pas qu'elle s'en aille, il faut qu'elle rentre, que les arbres l'utilisent. Les arbres vont la nettoyer et la renvoyer dans la nappe phréatique. Et là, on est sur la notion d'arbre-puits qui est très développée en ville. Quand on fait un arbre-puits, on ne plante pas un arbre dans une fosse d'un mètre cube, on fait une fosse de 25 mètres cubes dans laquelle on va apporter de la terre végétale et on va seulement venir planter l'arbre là-dedans et façonner le sol pour que l'eau rentre dans ce puits qui est constitué par cet arbre.
À Cerisé, les travaux ont donc été entrepris en septembre 2024. La cour de l'école Jean Moulin est désormais bien bien verte et avec des arbres. Roland Blandin, animateur au sein de l'association Sèvres Environnement.
Il y a eu tout un débitumage de la cour d'école pour en fait procéder à une végétalisation. Cette végétalisation est très importante, ça permet de gérer le pluvial à la parcelle et ça permet surtout de tamponner les effets climatiques, notamment les grosses températures. Donc il y a eu de l'engazonnement qui a été fait, de la plantation d'arbres. Tout ça, on aura les bénéfices bien sûr dans le temps. Il va falloir être patient parce qu'un arbre ça prend du temps à pousser. Mais c'est bien dans cette optique-là de vraiment tamponner le dérèglement climatique. Ça va être une diminution de la température, des zones d'ombrage, un bien-être pour les enfants et pour aussi tout le personnel de l'école.
Abricotiers, pommiers, tilleuls et autres arbres sont ainsi plantés depuis février. La ville de Cerisay servait d'appui à une journée technique proposée par l'établissement public de la Sèvre nantaise et qui a réuni une cinquantaine d'élus, techniciens de collectivités, agents des services de l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des enseignants et directeurs d'école. C'était mercredi dernier. Un nouveau palier pour le festival de poupées ancré dans le magnifique théâtre de Verdure à Saint-Malo-du-Bois. Le site a fait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement pour 2 millions d'euros. Les festivaliers pourront les observer dès mercredi prochain lors du lancement de l'édition 2025 avec Philippe Catherine en tête d'affiche. Pour le fondateur de ce festival, Philippe Madron, eh bien, son bébé a bien grandi.
Ouais, c'est un beau gros bébé, voilà. On en est arrivé, on l'a fait. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille sur le projet. On a tout relooké à 360 degrés. Et on n'a pas dénaturé ici. C'est ça qui était très très important. Quand j'ai mis les pieds sur le terrain le premier jour en 87, de voir que ce théâtre est, qu'on peut dire sans prétention, qui est sans doute le plus beau de France aujourd'hui, voilà, demeurera ici, à Saint-Malo-du-Bois.
Et tout est plus grand, en fait. Les loges, tout, hein.
Tout est plus grand et à la fois tout est resté intimiste. Voilà. Donc c'était ça, l'enjeu, le pari, c'était ça.
Ouais, et en plus, vous êtes autonome sur le plan électrique, là, c'est bien aussi, ça.
Alors ça, c'est une grande première, hein, voilà. On va plus être dépendant de groupes électrogènes, on est relié au réseau. Donc c'est bien pour la planète, voilà. C'est une grosse décarbonisation qu'on vient de mettre à notre actif.
Malgré ces ajustements, le festival de poupées reste dans l'esprit de proximité qu'il a toujours mis en avant. L'inauguration de ce nouvel espace s'est faite mercredi soir en présence d'Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de Vendée. Également au micro colline de Vincent Nori.
On est ici dans un contexte merveilleux, unique en France, on peut le dire. Et donc, moi je suis un président de conseil départemental fier des organisateurs, fier des bénévoles, fier du site, fier du festival de poupées.
On va pas trahir de secret, mais vous avez passé une sacrée journée, vous étiez à Paris ce matin, ça vous change, hein?
Oui, effectivement, ce matin avec l'ensemble des présidents de départements de France où les problèmes sont énormes aujourd'hui, il faut le reconnaître. Donc c'était presque un climat dépressif ce matin et ce soir je suis euphorique. Là, je retrouve les miens, je retrouve ces Vendéens qui ont une foi dans l'avenir, qui n'attendent pas tout du ciel, qui savent se retrousser les manches et qui savent se dépenser pour le mieux et pour les autres. Ça, c'est la beauté de la Vendée. Merci à tous ces bénévoles.
Des bénévoles qui sont en effet essentiels à ce festival de poupées dont David vous offre encore des places toute cette semaine. Cholet Basket a célébré mercredi son 50e anniversaire. L'appel du 18 juin à Cholet n'est pas forcément lié au général de Gaulle, mais plutôt au créateur de Cholet Basket, Michel Léger. En 1975, 140 personnes partaient d'une page blanche et ambitionnaient de rapidement monter dans l'élite. Le premier défi est réussi, 10 montées en 11 ans. Et voilà le club des Mauges au plus haut niveau du basket français depuis 1986. Et le créateur du club, Michel Léger, n'a pas oublié ses débuts.
Je me rappelle comme si c'était hier. Et pour l'instant, j'ai quelques pertes de mémoire, mais pour ce que j'ai fait avant-hier. Mais pas pour ce que j'ai fait il y a 50 ans, je me rappelle parfaitement.
Et alors,
le défi, il est venu après. J'ai dit, ben, que ceux qui m'aiment me suivent. Et on est parti dans le noir à l'hôtel Hervé. Yves s'en rappelle comme moi. J'ai des photos de cette soirée-là où on m'a mis à une table, l'assemblée devant moi. On m'a mis une feuille blanche. J'ai cru que j'allais me sauver. J'ai paniqué 3-4 secondes, c'est tout. Ouais. Hein, je me suis ressaisi tout de suite. Mais franchement, on ne savait pas où on allait.
Hein. Et depuis, un Cholet Basket a bien trouvé son chemin. En 2010, le club devenait champion de France et il continue de tracer sa route de jour en jour avec un maintien dans l'élite depuis toujours. Michel Léger.
On est le seul club en France qui n'est jamais descendu. On est arrivé en National 1 en 86. On n'est jamais redescendu. On est le seul club en France. Il y a Villeurbanne qui pourrait presque en dire autant, mais c'est pas vrai parce que Villeurbanne est devenu Lyon-Villeurbanne. C'est globalement que je suis satisfait. C'est un tout. Là, c'est un petit peu comme un rêve de voir tout ça, tous ces gens-là, etc. Beaucoup, j'ai connu connaît pas, ils me connaissent tous. Sans vouloir me donner des gants, je sais très bien ce que j'ai fait.
Et la ville de Cholet vient de lui rendre. Le maire Gilles Bourdoulex a en effet annoncé que la Maillerée était rebaptisée à effet immédiat, la salle Michel Léger. Écoutez sa réaction toujours au micro Colline et Philippe Audouin.
J'en suis un peu ému et c'est un beau cadeau que me fait Gilles Bourdoulex avec ça. Parce qu'on aurait pu mettre une rue, on pourrait mettre des trucs comme ça. Non, une salle de basket, ça me convient beaucoup mieux.
Alors cette salle de la Maillerée qui s'appellera Espace Michel Léger, c'est quoi votre plus grand souvenir dans cette salle?
C'est sans doute la victoire contre le Real Madrid. Tous les Choletais qui ont vécu cette époque-là vous répondront la même chose.
Michel Léger qui a donc marqué Cholet de son empreinte. Toujours au sujet de CB, arrivé en provenance d'Orléans à l'été 2024, Stéphane Smith a choisi de se lancer dans un nouveau projet la saison prochaine en Allemagne. Cette année, il a su se distinguer par sa capacité à réaliser de grandes performances, tant en Betclic Elite qu'en FIBA Eurocup, indique le club qui lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure. Basket toujours avec une troisième recrue pour Cholet. Zenabou Sieza, intérieur de 28 ans pour 1m88, formera une paire ivoirienne dans la raquette avec sa compatriote Minata Fofana. Elle compilait 10 points et 9 rebonds en moyenne par match l'an passé. En football, Noah Liègre est de retour à Bressuire. Celui qui jouait à Arvaux-Saint-Jouin jusqu'à présent en effet décidé de revenir en bocage, tout comme Benjamin Barque. Le Saint-Aubinais Thibaut Rambaud, qui vient de clôturer sa saison nationale avec Boulogne, est auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 28 matchs cette saison, vient de signer un contrat de 3 ans en Ligue 2 à Annecy. L'équipe entraînée par un ex-Nantais, à savoir Laurent Guillot. Il y retrouvera aussi un autre de ses Sévriens d'origine, le Toircet Nicolas Gousset, en charge, lui, des U18 nationaux. Le maire et les élus de Mauléon vont honorer l'équipe première du FC Pays de Loing ce vendredi à 18h dans le hall de la mairie. Cette réception est organisée afin de féliciter les joueurs et le staff pour leur victoire en Coupe des Deux-Sèvres le week-end dernier. Et puis, bonne nouvelle, si l'on peut dire, pour les automobilistes. Depuis plusieurs mois, les horodateurs Place Notre-Dame, Place des Cinq Combattants et des Jumelages à Bressuire ne fonctionnaient plus. Eh bien, ils vont être remis en service. Et donc, à partir de lundi prochain, le stationnement redeviendra payant sur ces trois places, en sachant tout de même que la première heure restera gratuite.